Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission du mardi, 12h30, Histoire de France. Et d'ailleurs, en compagnie de René-Joseph Irmana, aujourd'hui, va nous parler de quelqu'un de peut-être pas très connu, c'est Germaine de Staël. Eh bien, on retrouve René-Joseph tout de suite pour nous parler de Germaine de Staël. Bonjour.
Bonjour. Oui, c'est une personnalité un petit peu oubliée, mais enfin... Elle est quand même, disons, du grand public et qui mérite, disons, plus que cet oubli. Enfin, c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle, hors norme, un petit peu sans tabou, je dirais, qui a défié la chronique au 19e, enfin, au 18e. Elle est morte en 1817, donc à 50 ans, et elle a connu la Révolution, elle a connu le Premier Empire, je veux dire, le Consulat, l'Empire, et elle avait figure notamment, c'était un écrivain, surtout une femme, à la fois une femme de lettres, un penseur, on dirait, politique, voilà, philosophique, et qui a donc écrit et qui a fait figure d'opposante à Napoléon en son temps. Elle était un petit peu l'intellectuel qui avait un peu ce titre d'opposante principale, en quelque sorte, à Napoléon. Voilà. C'était aussi une féministe, et elle a préfiguré le romantisme. Voilà. Et puis elle a fait scandale aussi en son temps, par sa vie très libre. Et, voilà. Donc, elle était au départ la fille de... La fille de Necker, le banquier Necker, hein, qui fut ministre de Louis XVI en 1789, voilà, et qui n'a pas pu se maintenir, mais un ministre banquier, un petit peu, si on peut dire, pas forcément bon pour l'économie, parce que c'était un homme d'emprunt. Voilà. Donc, on va évoquer son père, Necker, ses parents, et puis bien sûr sa personnalité à elle, exceptionnelle. Alors, qui est-elle? On commence un peu par l'état civil. Je ferai aussi après une évocation d'un épisode de sa jeunesse. Voilà. Alors, elle s'appelle Anne-Louise Germaine Necker, donc son nom de patronymique. Elle deviendra baronne de Staël par son mariage, un mariage arrangé avec Staël, donc le baron de Staël Holstein, qui était ambassadeur de Suède en France. Donc elle est née le 22 avril 1766, donc, sous Louis XV, et meurt le 14 juillet 1817. Donc elle meurt le 14 juillet 1817 sous la Restauration, voilà, à 49 ans. Et elle a épousé, je l'ai dit, le baron Magnus Staël Holstein. C'était pas un bon ménage, c'était un mariage arrangé, un mariage qui a lié à la fois l'argent des Necker et l'aristocratie de Staël. Donc son père, Jacques Necker, c'est en soi une personnalité qui mérite, bien sûr, qui mériterait une émission, bien sûr, sur lequel on a écrit des bouquins, bon, qui fut ministre de Louis XVI, qui était banquier, et qui avait été d'ailleurs très populaire, qui avait été renvoyé, on vient de renvoyer sur sa carrière par Louis XVI, parce que je pense qu'il était trop à gauche, si on peut dire, et qu'il n'était pas dans la ligne des privilèges, hein, et renvoyé, puis très populaire, il a été rappelé, elle a dû être rappelée après le 14 juillet 1789 par Louis XVI, voilà. Mais il a démissionné en 1790, oublié de tous. Je pense pas que c'était un bon ministre des Finances. Enfin, il avait le titre de contrôleur général. Mais encore une fois, en tant que banquier, il prenait non pas les économies nécessaires, notamment au niveau de la cour, mais les emprunts, voilà. Donc, on s'endettait. Sa mère, qui a eu une grande influence sur sa fille, sur Germaine, sa mère s'appelait Suzanne Curchaud. Voilà, c'est pas un nom. Elle était fille de pasteur, de même que Necker était fille de pasteur. C'était des Genevois, c'était protestants Genevois. Voilà. Donc, je passe un petit peu survol, je l'ai dit, elle avait 15 ans des prétendants, parce que richissime, Necker avait fait une immense fortune, elle a des prétendants dont, par exemple, Pitt, William Pitt, qui était Premier ministre anglais, prétendant crédible, et puis il y avait eu aussi Axel de Fersen, le beau Suédois qui fut probablement l'amant de Marie-Antoinette. Bon. Mais in fine, je pense qu'elle refuse, c'est elle qui refuse, c'est parti, et ce sera Eric Magnus Stael Wallstein, qui est initialement chargé d'affaires et qui deviendra ambassadeur de Suède, de Gustave III de Suède, voilà. Et qui justement est très endetté, lui par contre, je l'ai dit, l'aristocratie, la suédoise en l'occurrence, qui redore son blason par ce mariage richissime. Et puis en tant qu'ambassadeur, il aura des honoraires importants, des indemnités, et puis il y a la dot considérable. Voilà. Alors, c'est une femme de lettres, on fait un petit survol. Hein. Alors, elle aura des amants nombreux, il faut bien le dire, et très décontractée, si on peut dire. Elle était sans tabou. Et c'est un personnage, un génie, je pense qu'on parle de génie, aujourd'hui un peu difficile à décrypter à travers ses œuvres, parce que ses œuvres, elles sont difficilement lisibles, elles sont datées, mais les experts, si on peut dire, les spécialistes en histoire de la littérature, considèrent qu'à travers cette loupe du langage qui passe mal aujourd'hui, désuet, c'est le souffle du génie. Mais c'était un génie foisonnant, tonitruant. C'était quelqu'un qui était comme une bombe. Hein, elle n'était pas belle au point de vue esthétique, non. C'était pas sa beauté, mais elle était en mouvement perpétuel. Et aussi bien par les idées, c'était aussi ses œuvres et puis sa conversation. On n'a pas pu l'enregistrer, bien sûr, mais c'était une conversation, peut-être pas une oratrice, si on peut dire, mais une causeuse brillante, brillantissime, d'après tous les témoins. Voilà. Et le souffle du génie passe dans cette œuvre qui est aujourd'hui illisible, dans ces œuvres à la fois des essais et puis des romans. Voilà. Donc on peut citer déjà quelques essais philosophiques, par exemple, elle fait une étude. Elle est politiquement, on y reviendra, donc. Plutôt, elle épouse les idées de la Révolution à ses débuts, en 1789, ses idéaux qu'elle partage. Mais après, vers 1790, 91, 92, après, c'est la rupture avec la gauche, on va dire l'extrême gauche, les clubs, les jacobins, et puis l'Assemblée qui évolue. Hein, d'abord les Girondins, les Montagnards, qui virent carrément au rouge, et une révolution qui devient violente, sanglante. Elle aurait voulu que ça s'arrête après 1789, au moment des États généraux, avec tous ces idéaux, la déclaration des droits de l'homme, la déclaration du 4 août 1789, où les aristocrates ont abandonné tous leurs privilèges. Voilà. C'était ce mouvement-là de liberté, de fraternité. Elle est plutôt pour une monarchie constitutionnelle, voilà. C'est une réformatrice, ce sont ses idées. Et notamment, elle admire beaucoup l'Angleterre où elle va séjourner. L'idéal pour elle, c'est ça. Elle n'est pas la seule. C'est le régime politique anglais qui, avec une monarchie constitutionnelle et puis le bicaméralisme, c'est-à-dire les deux chambres, une chambre haute, une chambre basse, qui s'équilibre. Voilà. Un équilibre. Des pouvoirs, bon fonctionnement de la démocratie. Alors, quelques citations. Alors, par exemple, 1788, elle a 22 ans, enfin, c'est très précoce. On verra, c'est une enfant très précoce, parce que sa mère lui donne une éducation très brillante. Hein. Elle en fait même un cobaye, si vous voulez, de l'enfant. On lui apprend, elle a des précepteurs. C'est une enfant unique et sa mère s'acharne, si on peut dire. Alors l'enfant est complètement à la limite. Hein. Ses limites, on la bourre. Elle apprend le latin, elle apprend sur l'anglais, et puis elle a l'histoire, la géographie, elle a les meilleurs maîtres. Et puis elle assiste dès l'âge de 5 ans. Sa mère tient un salon. C'est salon qui est. Avec des salonnières inconnues qui jouaient un rôle d'influence politique, littéraire. Madame Dudefant, Julie de l'Espinasse. Alors, il y avait Madame Necker, mère, donc, qui tenait salon, et la petite Germaine y assistait à 5 ans. Et dès l'âge de 14 ans, elle avait là les meilleurs esprits de l'époque. Et elle, à l'âge de 14 ans, très précoce, elle avait une mémoire éléphantesque. Et puis elle avait un culot à toute épreuve. Et donc, dès l'âge de 14 ans, elle participait au débat. Elle faisait l'admiration. Elle faisait des étincelles, quoi. Quelques exemples de ses œuvres. Alors, je l'ai dit, études sur Jean-Jacques Rousseau. Elle est rousseauiste. Elle admire Rousseau, la théorie de l'homme bon par nature et qui est pollué, qui est par la vie, par la société. Voilà. C'est aujourd'hui contesté, quoi. Mais bon, elle admire Rousseau. Elle admire. Alors, elle écrit aussi des ouvrages, bien sûr, qui tiennent au sentiment, à la psychologie, de l'influence des passions sur les individus et les nations, sur le bonheur, voilà, des individus, de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales en 1800. Donc, ce sont des essais. Et puis il y aura des romans, il y aura aussi un ouvrage comme le Livre de l'Allemagne. Et là, c'est un rôle important. Elle fera découvrir l'Allemagne à l'époque et les romantiques allemands. Elle sera reçue parce que très connue, très célèbre, de façon aussi un peu scandaleuse, mais elle sera reçue comme chef d'État dans les voyages qu'elle fera en Allemagne, en Angleterre, en Russie. C'est une voyageuse. En Italie, donc il y aura cet ouvrage aussi, je répète, de l'Allemagne, qui fait découvrir le romantisme allemand, alors que les autres, en France notamment, considéraient que l'Allemagne était un peu arriérée. Donc elle fait découvrir les philosophes allemands, Goethe, Schiller, etc., la littérature allemande, et c'est le romantisme français qui naîtra de cette inspiration du romantisme allemand, que fait découvrir Germaine de Staël. Voilà. Donc, au moment de la Révolution, je l'ai dit, et puis il y aura des romans, Delphine, Corinne, enfin c'est des prénoms féminins. Aujourd'hui c'est illisible, mais je l'ai dit, et elle est très féministe. C'est une féministe que le terme existe. Donc je répète, réformatrice, humaniste, modérée, pour une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Voilà. Et donc dès 1791, elle s'éloigne de la Révolution et finira par partir en exil. Alors il y aura un lieu très célèbre en Suisse, à Copé, près de Genève, où son père, le banquier Necker, avait acheté un château. Et ce château, qui sera son territoire d'exil, elle voyagera beaucoup aussi, elle reviendra un temps en France avant d'être obligée de repartir sous Napoléon, ça deviendra un lieu, on parlera du groupe de Copé, ça sera une espèce d'académie informelle où on accueillera les plus grands esprits du temps. Chateaubriand y passera, etc. Et donc, ça sera un lieu où on produira des œuvres, les philosophes, les écrivains écriront. Un lieu de pensée, je répète, une sorte d'académie. On parlera, je l'ai dit, c'est ce terme de groupe de Copé qui est né a posteriori, mais qui sera célèbre, ça sera un centre intellectuel européen. Voilà. Sous Napoléon, elle sera interdite de séjour. Et donc, parce qu'elle fait figure d'opposante à Napoléon. Et ce livre de l'Allemagne, notamment, Napoléon le fait interdire. C'est sous l'Empire, donc après 1804, parce qu'elle y prône, je pense, l'indépendance, l'unification des principautés allemandes. Donc, elle est donc à Copé, et c'est là qu'il y aura cette gloire. Elle a un esprit européen, c'est elle qui le dit. Et donc, on y reçoit les plus grands, je répète, ils viennent. Benjamin Constant, qui est un peu oublié aussi, qui sera son amant. J'ai cité Chateaubriand, une personnalité aussi comme Juliette Récamier, qui est une amie, l'amie fidèle, qui est l'amie de Chateaubriand aussi. Alors, j'ai cité ses œuvres, Delphine en 1802, Corinne ou l'Italie en 1807, de l'Allemagne. Alors, c'est 1810, 1813, pendant le séjour qu'elle y fera, avec son deuxième époux, après la mort du baron de Staël. Elle épousera un jeune homme alors qu'elle a 46 ans. Elle épouse un jeune homme de 24 ans, Albert Droquin, superbe officier, 24 ans, alors qu'elle est pas belle, hein, c'est plutôt une grosse dame, un peu couperosée, je sais pas, mais c'est son esprit qui brille de tous ses feux, et il est fou amoureux d'elle, voilà. Il s'épouse secrètement en 1811, et à 46 ou 47 ans, ils auront un enfant, hein, ils auront un enfant qui sera découvert d'ailleurs après son décès, ce sera un enfant secret élevé par un pasteur en Suisse, et elle aura deux enfants, enfin je citerai ça, deux fils, une fille, voilà, sa fille qui deviendra duchesse de Broglie, et l'enfant qui sera découvert au moment du testament sera élevé par sa sœur aînée. Il sera adoré parce que ça sera une merveilleuse surprise, voilà. Et c'est cette liberté totale, une liberté de vie et de mœurs aussi assez étonnante, hein, les amants, mais c'est toujours des amants intellectuels, ouais, voilà. Elle qui a un salon donc à Paris sous la Restauration, et là c'est là que paraît le livre après 1814, hein, ce fameux livre de l'Allemagne, et puis alors je l'ai dit, romantisme qui s'annonce, le féminisme. Elle mourra en 1817 à 49 ans au cours d'un bal d'ailleurs, alors je sais pas, j'ai lu des versions un peu différentes, j'avoue que j'ai dû je ferai peut-être une autre partie de cette émission parce que j'ai dû aller un peu vite, hein, pour des raisons d'emploi du temps, et donc j'ai parcouru ça un peu en diagonale. Bon, elle meurt d'une hémorragie cérébrale, je pense. Elle avait déjà des difficultés de santé, puis elle avait une telle intensité, c'était une fatigue intellectuelle, probablement une peur de la mort, c'était presque maladif, c'était une hyperactive, ce besoin d'action, elle épuisait ses interlocuteurs, c'était toujours au niveau, les conversations, c'était pas de la banalité, c'était au plus haut niveau, elle épuisait son monde, ils avaient du mal à suivre, voilà. Elle s'était adonnée à l'opium, notamment pour parvenir à dormir, et donc elle meurt, je répète, rapidement d'une hémorragie cérébrale en 1817 au cours d'un bal, semble-t-il, dans les bras de son gendre Victor de Broglie, voilà. Et donc on peut citer quelques œuvres, un petit peu, ça passe un peu, c'est assez brouillon, je pense qu'on y reviendra peut-être parce que c'est une vie tellement foisonnante, intense, que on a du mal à suivre. Elle écrit par exemple Considération sur les principaux événements de la Révolution française en 1802. Là, ce sont des œuvres posthumes, parfois inachevées, qui sont publiées après sa mort, et puis 10 années d'exil qui paraîtront en 1821. Donc, on va peut-être faire une première pause. Voilà. Donc, je vais revenir sur son enfance. Bon, on va revenir vraiment à une biographie plus construite. Et on va peut-être faire une première pause. Alors c'est un téléfilm de 1994, Germaine et Constant, voilà. Ça a été donné en film aussi. Et là, on vous passe la version, une partie de la version de téléfilm. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne. C'était en 1994, de Jacques Doyon, sur la 6, la 7, oui, avec Jacques, avec Anne Brochet. Dans leur rôle de Germaine, et alors Bertrand Régent, de toute réserve, qui était l'acteur qui jouait le rôle de Benjamin Constant. Ça évoque cette idylle avec Benjamin Constant. On se retrouve dans 3 minutes.
J'étais de retour en Suisse. Je ne laissais derrière moi qu'un mariage malheureux et une liaison impossible avec Charlotte d'Hardenberg. Madame de Staël vivait non loin de là, à Copé, où les excès de la Révolution l'avaient engagée à se retirer. Elle était seule avec son père et ses deux enfants. Sa mère venait de mourir. Son mari était resté à Paris, où il était ambassadeur de Suède, et où la terreur battait son plein. Je l'avais rencontrée. Elle m'avait ébloui, et je ne rêvais plus que de vivre avec elle.
Je vous aurais prévenu, autant engager une liaison avec une actrice. Vous aurez les mêmes plaisirs. Moi, la fatigue d'avoir à entretenir la conversation.
Rassurez-vous, je ne songe pas à une liaison. Elle est trop entourée et trop absorbée.
Elle m'inonde de lettres amicales et de compliments sur mon dernier roman, aussi bouleversant. Elle voudrait me joindre à sa collection de princes et de célébrités, mais cette femme est trop de son temps et son temps n'est pas le mien.
C'est le mien, n'en dites pas de mal.
Vous, Constantinus. votre temps. Vous n'êtes que de l'instant, c'est ce qui vous rend si plaisant. Cet art de la minute, sitôt la minute passée, vous changez. Du tout au tout.
C'est aussi ce qui me fait si inconséquent. Je ne risque rien. Elle n'aura pas le loisir de s'intéresser à moi. Narbonne, le père de ses fils, est en visite chez elle.
Vous savez bien qu'elle n'est plus à elle. Madame de Laval lui a remis la main dessus. Tout ce qu'elle aime la fuit très vite. Adolf Ribbing, son beau régicide suédois, est déjà en route pour le Danemark.
Il n'a pas décidé ce voyage. Le gouvernement de Berne l'a exilé. Vous êtes injuste.
Ne retournez pas chez elle, c'est d'un ennui. Avec son père, ce pauvre veuf de M. Necker qui rôde dans la maison, inconsolable de la mort de sa femme, sans compter la grande amoureuse abandonnée.
Cessez de me la montrer malheureuse. Une femme malheureuse est une tentation à laquelle il m'est impossible de résister.
Donc, c'est cet épisode où Benjamin Constant revient auprès de Madame de Stalder. Il la demandera en mariage, c'est elle qui refusera. Voilà. C'est une liaison à la fois intellectuelle et amoureuse. Lui aussi, c'est un penseur du temps, un auteur, un homme politique, enfin, surtout, je répète, un essayiste. Enfin, il travaille sur des sujets de la doctrine politique, il a une doctrine. Et ils ont travaillé aussi à quatre mains, si je puis dire. Voilà. Donc, je reviens sur l'enfance pour une biographie un peu plus construite, chronologique. Alors, on évoque l'hôtel Allwild, qui est rue Michel Comte, et là, c'est là qu'elle est née, l'hôtel des Necker, à Paris. Et donc, Necker, qui, on le sait, ministre de Louis XVI deux fois, voilà. Enfin, il avait le titre de contrôleur général, étant de nationalité suisse, il ne pouvait pas avoir le titre de ministre. Voilà. Donc, elle reçoit une éducation quasiment forcenée par sa mère. Qui en fait, je l'ai dit, un sujet d'étude presque. La mère, elle est un peu détraquée, je veux dire. C'est un personnage très corseté, qui a un langage assez étrange. Elle a des façons de s'exprimer. Elle ignore la simplicité. Elle se veut aussi un peu femme de lettres, peut-être. Alors, les choses les plus simples, j'aurais pas le temps de citer, elle les rédige en termes complexes, compliqués, alambiqués, voilà. Et elle veut faire de son enfant réussir l'éducation de sa fille. Alors c'est une éducation d'érudition, quoi. C'est presque du bourrage de crâne, hein. Je veux dire, on lui enseigne notamment le latin, l'italien, enfin l'anglais, je veux dire, et puis l'histoire, la géographie, voilà. Elle a les meilleurs maîtres. Elle a très peu de temps, elle, la petite fille. Parce que, par exemple, il y a un témoin, la plupart des amis qui visitent la famille et qui proposent d'emmener la petite fille faire une sortie en balade, et l'enfant, on aurait cru qu'on lui avait offert la lune, parce que elle était tellement tenue, tellement soumise à un travail constant, que la moindre sortie devait être faite pour elle. Voilà. Mais au point de mettre en cause son équilibre mental, hein. Ça me fait penser à un enfant que j'avais vu ça en classe en troisième. C'était un enfant de 12 ans qui était en classe de troisième. Et c'était pas un surdoué, mais sa mère le faisait travailler. Sa mère était veuve. Et je sais que le directeur, lors des notes, l'avait fait redoubler. Et il a dit, je vais aller voir ta maman, parce que ça va mal finir. Il faut qu'elle te foute la paix, quoi. Qu'elle te laisse prendre des vacances. Voilà. C'était un peu ça, voilà. C'était une enfant presque... Mais bon, il en est resté un génie, hein. Malgré tout, il a... Alors, je sais pas... On peut parler de génie, un génie tonitruant. Alors, Jacques Necker, le père, je répète, a fait fortune, richissime, banquier suisse. Donc, il sera, dans un premier temps, ministre, puis renvoyé, puis rappelé, puis... ça sera assez aléatoire, de 1776 à 1781, de Louis XVI. Alors, sa mère tient salon, je l'ai dit, et elle reçoit les grands intellectuels. Alors, Buffon, c'est le scientifique, l'abbé Rénal, des personnalités connues de l'époque. Et la petite fille, je répète, écoute tout. À 5 ans, c'est la meilleure école, hein. Elle écoute ses brillantes conversations, elle en fait son miel, et puis dès 14 ans, alors elle étonne, Grimm aussi, l'auteur des contes, enfin, ça brille dans le salon de Madame Necker. 14 ans, elle participe aux discussions, hein, alors elle n'est pas la moindre timidité, et donc elle fait montre, elle a étudié aussi la musique, on lui a appris l'éloquence, enfin, intelligence vive, mémoire éléphantesque, brillante éducation, assurance. Elle étonne par son jeune âge, la brillance de ses réparties. C'est, faut bien dire aussi, presque un phénomène de foire, quoi. Ça surprend un peu aussi. On admire et on... Il y a aussi des petites critiques, des petites critiques acerbes. Enfin, voilà. Donc, à 20 ans, elle épouse. C'est un mariage arrangé. On a refusé des brillants partis où elle, semble-t-il, William Pitt, premier ministre anglais, Axel de Fersen et d'autres, l'aristocrate suédois, hein, probablement de Marie-Antoinette. Enfin, 11 janvier 1786, eh bien, ça sera le baron, eh bien, de Stahl, Holstein, qui est chargé d'affaires du roi de Suède, Gustave III, à Paris, et qui deviendra ambassadeur en titre. Elle a 20 ans, il en a 37, il se marie à la chapelle de l'ambassade de Suède. Voilà. Donc l'époux est désargenté, endetté, mais il a c'est de la brillante aristocratie. Voilà. Et puis ses émoluments, lorsqu'il sera ambassadeur, on dirait titulaire, et plus la dot formidable. Alors, 25 000 livres, ça ne nous dit rien, mais c'était formidable de Necker pour sa fille, font que le ménage peut vivre sur un grand pied, mais c'est pas un bon mariage. C'est pas du tout une histoire d'amour. Mais elle a écrit, c'est pas non plus la détestation. Parmi les hommes que je n'aimais pas, écrira-t-elle, Monsieur de Stahl était celui que j'ai détesté le moins. Voilà. Une sorte d'association. Bon, ils arrivent à cohabiter. Alors elle tient là, à l'hôtel de Suède, son propre salon, hôtel de Suède rue du Bac, vers 1795. Elle y brille aussi. Elle y reçoit Lafayette, elle y reçoit Condorcet, elle y reçoit alors personnage moins connu, François Delange, qui sera un de ses amants. Il y a Louis de Narbonne, alors là qui deviendra ministre. Et qui est des affaires étrangères, qui est un officier, et qui sera son amant, probablement le père de ses deux fils, deux fils de Germaine. Mathieu de Montmorency aussi, qui est reçu là, et qui sera aussi l'amant parmi d'autres, voilà. Je l'ai dit, elle, et puis Talleyrand, qui est l'ami, qui sera exilé un temps en Amérique, et dont elle facilitera le retour, voilà. Donc, oui, je vais peut-être vous donner quelques éléments d'état civil là, que j'avais un petit peu occulté pour bien, disons, fixer ces éléments. Donc, sa fratrie, enfin, ça, je veux dire, ses enfants, il y aura Gustavine de Stahl, avec, qui aura le nom de... Apparemment, elle est du baron de Stahl, qui mourra à 2 ans. Hein, c'est un malheur, hein, puisque là où les deux époux se rencontrent, sur la tombe de leur enfant, malgré tout Auguste de Stahl, 1790-1827, Albert de Stahl, le deuxième fils, 1792-1813. Alors là, apparemment, ils sont suspects d'être de Louis de Narbonne, les deux fils. Il y aura ensuite Albertine, la fille, 1797-1838, qui deviendra... eh bien, qui épousera le duc de Broglie, hein, Victor de Broglie, voilà. Et puis un fils dont j'ai parlé, le fils du dernier époux, du jeune époux de 24 ans, qui mourra prématurément, qu'elle aura 47 ans, hein, cet enfant, Albert de Rocca, hein, voilà. Louis-Alphonse de Rocca, hein, qui mourra assez jeune à 30 ans, hein, voilà. Il est né en 1812, voilà. Donc, je reprends, elle tient son propre salon, et brillant, hein, à l'hôtel de l'ambassade de Suède, et c'est à la fois un salon littéraire et politique. Alors, les idées qu'elle prendra, je répète, c'est notamment inspiré du régime anglais. C'est plutôt une centriste, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, centre-gauche, quoi, enfin, c'est du réformisme. Les révolutions à ses débuts la séduisent, la Déclaration des droits de l'homme, 1789, la nuit du 4 août, où on abandonne, les nobles abandonnent leurs privilèges, là ça lui plaît, quoi. Mais elle est pour le maintien de la monarchie, une monarchie, je répète, contrôlée par le Parlement, et un Parlement bicamérable à l'anglaise. Elle admire Jean-Jacques Rousseau, voilà, les Lumières. Donc, en 1792, là c'est la période de la terreur, et là, bénéficie, son père s'est exilé en Suisse, elle bénéficie, c'est quand même pas intangible comme protection, la protection de l'immunité diplomatique de son époux à l'ambassade de Suède. Elle est très courageuse, elle sauve des amis, on pourrait revenir, elle prend des risques pour aider ses amis, elle part comme une flèche pour les aider. Voilà, elle part en exil en 1793, dans un premier temps en Angleterre, elle y retrouvera un certain Chateaubriand, elle y retrouvera Talleyrand, et puis elle part ensuite en Suisse, Angleterre, Suisse, et là, à Copé, donc là, il y aura une liaison avec François de Pange, voilà, mais qui épousera une autre femme, enfin, elle aura beaucoup de trahison aussi, parce que même ceux qui l'aiment disent qu'ils ne pourront pas vivre. Elle n'est pas supportable. C'est une telle intensité, c'est un tourbillon, et notamment au point de vue intellectuel. Il faut suivre. Hein, voilà. Et ce François de Pange, l'amant, rencontré en Suisse, épousera donc Anne-Louise de Domangeville. Voilà. In fine. Et puis, c'est un imprimeur donc, qui publie ses œuvres, notamment, je les cite, La Paix et Zulma. Voilà. Elle revient en France en 1794. Alors là, elle écrit Réflexion sur le procès de la reine, sur le procès de Marie-Antoinette. Elle se révèle assez, elle a de l'empathie, semble-t-il, pour Marie-Antoinette. Et je l'ai dit, c'est une féministe. Elle considère que les femmes sont des victimes. Bon, à l'époque, c'était vrai, évidemment. Encore que dans l'aristocratie, c'était pas le cas dans le monde où elle vivait. Et puis alors, c'est cette liaison très longue avec Benjamin Constant, donc notamment à l'époque du Directoire, là, donc elle se positionne un petit peu au centre. Et comme tout, c'est toujours une position difficile à tenir. Elle est attaquée aussi bien, donc sous le Directoire, par les royalistes. Bien qu'elle soutienne les émigrés, je pense qu'elle œuvre pour leur retour. Elle est attaquée par les mêmes royalistes qui la jugent trop proche de la Révolution, et par les Jacobins parce qu'elle n'en fait pas assez, et parce que justement elle a des amis émigrés, elle a des tendances pro-royalistes. Alors Bonaparte, qui prend le pouvoir, elle soutient des coups d'État, coups d'État notamment du 18 Brumaire, qui installe le consulat, hein, et qui met fin au Directoire. Mais très vite, elle admire Bonaparte, elle pense qu'il est à sa hauteur, quoi. Elle cherche à le séduire, mais alors lui, il l'a en horreur, il la rejette. Elle s'accroche, il rejette ses avances politiques, hein, voilà. Mais il y a par exemple une entrevue, elle le rencontre personnellement, donc le 3 janvier 1798, rencontre organisée par Talleyrand. Par l'ami Talleyrand, voilà. Mais Napoléon ne peut pas la supporter, quoi. Et par exemple, même au cours de réception publique, elle l'attaque, mais enfin, elle le provoque en quelque sorte. Hein. Et alors, c'est toujours, elle se fait rembarrer. Par exemple, elle lui demande : quelle est pour vous la meilleure des femmes ? Alors, Bonaparte à l'époque lui répond : c'est celle qui fait beaucoup d'enfants, voilà. Donc, ça passera pas, elle deviendra une opposante, l'opposante à Napoléon, intellectuelle, un petit peu en titre, quoi. Voilà. Donc après le 18 Brumaire, voilà, elle est d'ailleurs éloignée de Paris, parce qu'elle en fait trop, elle reçoit trop des gens qui sont susceptibles d'opposition, voilà, ça fait trop de mouvements. Elle est tenue de rester à 30 lieues de Paris, je dirais, au pif, et puis ensuite elle doit s'éloigner carrément de France, elle doit repartir à Copé. Dans ce centre, ce refuge de Copé, mais qui sera un lieu, je répète, un lieu de où brillera l'esprit, l'intelligence, une sorte d'académie informelle, prestigieux dans toute l'Europe. Donc exil, alors c'était à 10 lieues de Paris, et puis ensuite, comme elle ne s'est pas respectée, elle viole les prescriptions, elle doit partir carrément en Suisse. Alors elle écrit à ce moment-là de Delphine, je l'ai dit, du prénom féminin, qui eh bien, est un roman, je répète, féministe avant la lettre. Et puis l'Empire, c'est l'Empire de décembre 1804. Napoléon crée l'Empire. Le Code civil, alors là le Code civil qui répond mal au féminisme puisqu'il accorde le divorce, mais la femme est vraiment dans une situation de soumission. Alors ça Madame de Staël n'approuve pas, quoi. Voilà. Donc, cette liaison, on peut la souligner avec Benjamin Constant, qui fera des étincelles, mais qui sera aussi très tonitruante, très beaucoup de correspondance, bien sûr, très tourmentée. Elle l'a rencontré en 1794. Elle le retrouve dans son exil vaudois. Liaison orageuse, pas de mariage, il l'avait proposé, on a entendu cet épisode où il revient à elle, c'est lui qui la demande en mariage, mais elle refuse, voilà. Et puis il y aura ce voyage, alors ces voyages célèbres, elle parcourt l'Europe, elle avait songé à s'installer aux USA, un moment d'ailleurs, attention, elle a une immense fortune, mais elle gère sa fortune au mieux, hein. C'est une bonne gestionnaire, elle fait de bons placements, richissime, sa fortune est en Amérique pour l'essentiel, elle a des placements là, aux USA, et elle envisageait une époque d'aller y vivre, qui était aussi une patrie de la liberté, qui avait pris son indépendance de l'Angleterre, c'est la guerre d'Amérique, Lafayette, ça l'attirait aussi, bon ben elle n'y renonça. Et puis il y a ces fameux 2 millions, c'est une anecdote, 2 millions que eh bien, son père Necker avait prêté au gouvernement français, notamment dès Louis XVI, et que toute sa vie, c'était une somme formidable, je pense 2 millions de livres, ou je sais pas, et qu'elle s'acharnera toute sa vie à récupérer. Et un temps, Napoléon lui promettra de la rembourser. Voilà. Mais je ne sais pas si elle a obtenu, à vérifier. Ça a été un combat de toute sa vie. Elle ne lâchait pas prise. Mais riche, et point, bonne femme d'affaires, hein, malgré toute sa générosité, voilà. Alors elle est reçue, je l'ai dit, dans ses voyages comme un chef d'État, hein. Elle a appris l'allemand pour mieux comprendre les œuvres des philosophes allemands, du précepteur de ses enfants, qui je crois était aussi son amant, j'ai oublié ça, je noterai son nom, mais peu importe. Fin 1803, printemps 1804, donc c'est ce voyage. Elle est reçue comme chef d'État dans les principautés, à la cour de Russie, et puis en Angleterre aussi. Elle ira en Suède aussi, c'est Bernadotte en Suède, l'ancien maréchal de Napoléon qui deviendra roi de Suède, qui héritera du trône de Suède. Là, elle favorise Bernadotte, voilà. Elle rencontre Schiller, Goethe en Allemagne, toute l'intelligentsia allemande, et je répète, son livre de l'Allemagne révélera la culture allemande qui était très méconnue en France. Donc voyage en Italie fin 1804. Alors là, elle parle, c'est elle qui dit, l'esprit européen. Elle a l'esprit européen. Amitié avec la fameuse Juliette Récamier. Alors c'est pas un auteur, c'est une égérie. Juliette Récamier, elle est très connue. Elle est l'amie de Chateaubriand. Voilà. Alors Juliette Récamier, et Benjamin Constant. Je sais pas si ça sera une liaison lesbienne. Je ne sais pas. C'est une liaison très tendre. Alors Juliette Récamier, on pourrait faire une émission sur elle. Elle était la fille, l'épouse d'un banquier qui peut-être était son père. C'était, elle avait une grande différence d'âge. Récamier aurait été peut-être son père. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça n'avait rien d'incestueux, mais c'était, semble-t-il, père naturel, pour la protéger mieux pendant la tourmente révolutionnaire. Et ça sera une femme aussi qui recevra jusqu'à sa mort. Elle aura des amis de lettrés, voilà. Une femme, pas de lettres elle-même, mais un esprit brillant aussi. Il y aura une liaison fidèle. Et Juliette Récamier bravera l'interdiction de Napoléon. Tous les visiteurs de Copé, français, étaient condamnés à l'exil. Hein. Ils étaient présumés complices. Et Juliette, eh bien, prendra le risque de venir voir son amie Germaine à Copé. Voilà. 1805, donc. Je l'ai dit, c'est ce retour à Copé sous l'Empire et ce fameux groupe de Copé. Hein. Alors 1811, elle est devenue veuve en 1802 de Staël, du baron de Staël, et l'épouse Albert Droca, le jeune officier de 24 ans, suisse, brillant officier, qui a eu la Légion de. Je voulais pas dire de bêtises, qui avait eu la Légion d'honneur, alors à 22 ans. Enfin, mais alors lui, c'était pas un intellectuel. Il adorait. C'était un peu une cougar, on dirait aujourd'hui. Alors il adorait, il était dépassé un peu par les conversations de Copé, mais c'était une histoire d'amour, voilà. Et on dit qu'il montait à cheval, alors c'est une anecdote, les marches de Copé, du château, gelées, c'était un exploit. C'était un brillant cavalier, et il avait même voulu se battre en duel, ça paraissait assez. Émouvant, ça faisait sourire, parce que, je l'ai dit, elle n'était pas belle, mais il pensait qu'il avait un rival, et il voulait se battre en duel. Il l'adorait, quoi. Donc, elle est maintenue en exil, et ils auront un fils, je l'ai dit, un enfant, Albert de Roca, hein, qui est un enfant fragile, qui mourra vers 30 ans, qui sera élevé, d'ailleurs, par sa sœur aînée, la duchesse de Broglie, Albertine, qui sera découvert après la mort de Germaine. Elle l'avait placé chez un pasteur. C'est dans le testament qu'ils découvriront que ses autres enfants, fils et filles, qu'ils avaient un petit frère. Et ils vont l'adorer, quoi. Voilà. Et donc, je l'ai dit, les visiteurs sont sanctionnés par l'exil. Donc, Juliette, courageuse, prend le risque de venir voir son amie. On n'est peut-être pas la seule, quoi. Donc, il y aura un voyage en 1800 en Russie avec Albert, le jeune époux, et ses deux enfants. Hein. Voyage en Russie pour l'Angleterre. On passe par la Russie à l'époque, je pense, en raison des circonstances politiques. Ensuite, Stockholm. Donc, elle est reçue par Bernadotte, qui est devenu héritier du trône de Suède, on le sait. Elle jouera un rôle politique, elle prendra une stature politique, elle inspire une alliance anti-napoléonienne auprès de Bernadotte. Hein, voilà. Angleterre en 1813, elle rencontre le futur Louis XVIII, hein, qui est en exil. Là, il y publie des ouvrages, elle écrit beaucoup, hein, c'est une œuvre abondante. Sappho, je ne pense pas que ce n'est rien d'homosexuel. C'est un prénom de femme, mais bon. Réflexion sur le suicide. Voilà. Retour en France sous la Restauration en 1814. Alors à Paris, là, elle réouvre son salon, elle reçoit des ministres, elle a vraiment une influence politique, une influence de propagandiste, hein, des généraux, des ministres. Toutefois, je répète, Napoléon est à l'époque à l'île d'Elbe, et bien que ce soit l'ennemi de toujours, elle vend d'un attentat, une tentative d'assassinat de Napoléon à l'île d'Elbe. Elle le fait prévenir, voilà, discrètement, voilà. Et il lui, en retour, il la remercie et lui annonce que, je ne sais pas s'il revient, est-ce qu'il va revenir, mais pour les 100 jours, il fera tout. Il lui promet le remboursement des fameux 2 millions, voilà. Et puis elle rend visite à Joséphine, à la Malmaison. Joséphine qui va bientôt mourir, hein, elle meurt, elle ne sera pas là au 100 jours, hein, qui meurt d'une pneumonie, on le sait. Et Joséphine est un petit peu déstabilisée par cette. C'est pas une furie, mais c'est ce tourbillon de. Joséphine qui est délicate, elle est un petit peu déstabilisée, hein, voilà. Dès lors, toutefois. Eh bien, elle approche les 50 ans, elle a 48 ans, 49 ans, notre Germaine, et opiumane, on l'a dit, elle a du mal à dormir, elle est devenue dépendante à l'opium, elle a des problèmes de santé, et elle meurt d'une hémorragie cérébrale le 14 juillet, hein, 1817. Voilà. Alors, semble-t-il, dans les bras de son. Au cours d'une réception, elle s'effondre dans les bras de son gendre. De Broglie, hein, Victor de Broglie. Elle est enterrée à Copé, dans la petite chapelle du château de Copé, avec son père et sa mère. Donc, elle fut une brillante causeuse, je l'ai dit. On cite par exemple un cas où en Suisse, la calèche, on faisait une balade, la calèche perd une roue, on est dans la neige, dans l'hiver genevois, et pendant le temps de la réparation, 2 heures à peu près, les autres voyageurs, elle improvise une conférence sur l'histoire de Rome. Ils sont éblouis, voilà. Ils n'ont pas vu le temps passer. C'est une, je répète, elle brille surtout dans la conversation. Et ses écrits, donc c'est les essais, les romans, l'histoire, elle introduit le romantisme féministe, à l'instar de Chateaubriand, voilà. Elle est aussi, je l'ai dit, néanmoins, une bonne... elle gère sa fortune au même, elle est très généreuse avec ses amis, et elle fut très courageuse pendant la période de la terreur. Elle était fidèle, voilà, et passionnée. Il était impossible de s'en défaire, et écrit un témoin. On ne pouvait pas, même ceux qui l'abandonnaient, elle allait les relancer, quoi. Elle les reprenait dans ses filets. Et parmi peut-être ses successeurs, il y a peut-être George Sand qui reprend un petit peu sa pensée, voilà. Mais pas que. Voilà. Donc on va vous passer désormais du Mozart, puisque Chopin, c'était pas contemporain. Hein. Elle meurt en 1817, Chopin était né en 1810, sauf erreur. Mais enfin, c'est du romantisme. On va vous passer du Mozart, la 25e symphonie. Ouais. À bientôt, chers amis. Je vais vous faire peut-être quelques lectures de texte, donc sur le Madame de Staël, enfin sur les témoignages et ses écrits, quelques citations. Alors là, c'est pas toujours sympathique. Par exemple, dans son journal du 1er mars 1789, et cette toute jeune Germaine de Staël, elle a 22 ans, 23 ans. C'est Bombel, le marquis de Bombel, c'est un courtisan hein, qui lui est peu favorable aussi à Necker. Hein. Et donc il est assez cinglant à l'égard de la fille de Necker. Alors, il cite « La conversation de Madame de Staël est comme un feu de billebaude. Jamais elle n'offre un instant de repos, et pensant que sa langue prononce tantôt juste, tantôt au hasard, mille mots qu'elle seule peut risquer de se placer, les uns à côté des autres, de placer, son visage ressemble à un boulet rouge. » Voilà. Donc, je répète... sa vie privée, puisqu'il y a peu d'entente avec son époux, enfin, il s'éloigne très vite. Elle est l'homme que je détestais le moins, parmi ceux que je n'aimais pas, dit-elle. Il a une jalousie un peu justifiée, la naissance d'une fille, Gustavine, en juillet 1787, hein, qui mourra donc 2 ans plus tard. Voilà. Elle adore son père, hein, faut dire. Germaine de Staël, elle a écrit sur son père et c'est son dieu vivant, Necker. Voilà. Donc, elle dit qu'elle, à sa mort, quand elle est jeune, quand son père mourra, elle voudrait mourir. Elle envisageait, dit-elle, de se suicider. Quoi. Mais bon, c'est très. Elle ne le fera pas, on le sait, mais quand il mourra, ça sera vraiment. Très démonstratif, ce sera une grande douleur. Voilà. Donc, je vais vous lire quelques textes ici et là, mais c'est très foisonnant. Quoi. Par exemple, elle ramène son époux, Staël, un temps, il l'accompagne à Copé. Il meurt dans le Jura, donc en 1816, il était devenu à nouveau ambassadeur. Hein. Après, sous la Restauration, son mari, après être retourné en Suède, voilà, il revient et il meurt dans le Jura, brutalement, en 1816. Mais avant cela, donc, il avait une très mauvaise santé, donc il revient avec elle à Copé, où il sera enterré d'ailleurs un temps. Alors, elle cite dans une lettre à Gustave III, voilà, « Il faut attendre un long temps les remèdes au malheur d'un seul jour. Il faut que tous les soins de mon père tendent à relever l'autorité du roi. Si le pouvoir exécutif ne lui appartient pas en entier, si les troupes ne lui obéissent pas, ce pays-ci est perdu. » Voilà. Ce pays-ci est perdu. Donc, c'est le pouvoir exécutif. Donc, il faut un régime autoritaire, un régime fort, malgré tout. Quand un gouvernement subsiste depuis longtemps, il y a apparence qu'il est nécessaire. C'est comme les règles de l'arithmétique dont on trouve la preuve en les renversant. Jamais mon père n'a formé le projet d'en détruire les bases. Donc il écrit à propos de son père, hein, à ce sujet. Hein, c'est pas à propos de son époux, c'est un élément de la vie privée, en quelque sorte. Jamais mon père n'a formé le projet d'en déduire les bases. Il désirait sans doute de grandes améliorations, mais en s'y refusant, lorsqu'il n'était plus temps, le roi et la noblesse ont bouleversé le royaume. Mon père a constamment supplié le roi d'accorder ce qu'il serait obligé de céder. C'est au système contraire qu'il faut attribuer l'attaque du peuple et l'inconsidération du monarque et des grands qui ont vu de même tout refuser à la raison, tout abandonner à la violence. Si cet état durait, la France serait détruite et sa dissolution serait terrible. Mais j'espère encore, j'espère que mon père la sauvera. Si cette attente est trompée, il faut fuir à jamais la France. Constantinople serait un asile plus sûr qu'un pays abandonné à la liberté sans frein, c'est-à-dire au despotisme de tous. Donc, voilà. J'ai évoqué ici, j'ai fait une petite erreur de chronologie. Hein. Là, elle évoque l'action de son père à la fin de la monarchie, hein, dans les années 1790, enfin, à la fin de son ministère. Hein. Donc, il y a beaucoup de citations, mais ils sont très, très, très riche, très forte. Voilà. Par exemple, à propos donc de François de Pange, un de ses amants, donc qui a épousé une autre femme, qui, je vous dis, c'était difficile de vivre avec Madame de Staël. François de Pange, au mois de janvier 1796, a épousé Madame de Sérilly. Voilà. Alors, en se mariant, elle l'admirait, mais c'est toujours l'excès, l'outrance. Voilà. Je m'étais accoutumé à vous regarder comme inaccessible à ce sentiment. Le seul que je conçois parfaitement, lui écrit-elle de Copé, le 12 février 1796. Et je vous supposais, par mon culte et votre caractère, un être de nature à part. Aujourd'hui que j'ai vu que vous étiez des nôtres, il m'a semblé que je vous avais perdu, que vous auriez pu m'aimer à peu près comme un autre. Pourquoi ce sentiment, puisque c'est l'amitié qui m'unissait à vous. Voilà. Autre citation peut-être, si j'ai le temps. Donc, on n'ouvre pas ma porte que je ne tressaille une heure avant l'époque du courrier. Voilà. C'est une situation d'attente. Alors là, c'est un autre amant, Ribbing, hein, voilà, qu'elle a adoré. On n'ouvre pas ma porte que je ne tressaille une heure avant l'époque du courrier. Un tremblement me saisit, tel qu'il faut m'enfermer pour ne pas me donner en spectacle et recevoir ces lettres où dès la porte j'aperçois qu'un cachet, une forme, une écriture n'y est pas. Mes yeux, ma tête se troublent quelquefois au point de prendre ce que je vois d'une certaine distance pour un papier, pour une lettre, et 20 fois par jour je pâlis comme vous ne pâlissiez pas quand vous entendiez votre sentence de mort, parce qu'il avait échappé à l'échafaud de justesse. Je crois qu'il était intervenu pour aider à le sauver. Enfin, je prends de l'opium pour dormir, et sans avoir la force ni la volonté de me tuer, je prie l'être qui m'a créé de ne pas me réveiller. Voilà. C'était une grande amoureuse, une passionnée, autant qu'une intellectuelle, à l'œuvre foisonnante, un penseur vraiment brillant, un génie du 18e. Début du 19e. À bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis, et on retrouve le divin Mozart. Thank you.
Thank you.